vous donner un peu le cadre de la situation en Europe, c'est là aussi très très difficile. Parce que, comme je vous disais, la situation est très très fragmentée et est très différente de pays en pays. On va essayer de voir un peu ce qui se passe dans les différents pays. Mais surtout, je voudrais tout de suite mettre en lumière l'immense dichotomie qu'il y a entre les progrès qui ont été faits au niveau européen pour la reconnaissance du secteur à partir de 2008 avec la résolution du Parlement européen, en 2009 avec la déclaration des ministres du Conseil de l'Europe, et la situation sur le terrain. Si d'un côté, il y a une reconnaissance de plus en plus forte des médias associatifs comme un secteur à part entière qui se trouve donc dans le panorama des médias actuellement, en fait, sur le terrain, la situation est très, très différente. Il ne faut pas aller très loin pour remarquer qu'il y a des pays membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas encore ce secteur avec des législations appropriées. Nous sommes dans la Belgique francophone, mais si on va dans la Belgique flamande ou néerlandophone, le secteur des médias associatifs n'a pas une loi structurée qui en reconnaît donc les compétences, les limites, etc., etc. En Finlande, nous avons le même problème. Il n'y a pas une vraie définition, donc une loi. En Espagne, il y a le même problème. En Suède, on est un peu dans la question évoquée par le collègue du brouillage des catégories, pour lequel donc il y a beaucoup de radios qui ont accès à des fréquences entre guillemets associatives, alors qu'il s'agit de radios commerciales, ce qui donne vie à une marchandisation des fréquences, chose très grave si on considère que les fréquences sont un bien public. En Hongrie, on peut évoquer le cas de l'Hongrie qui est le cas emblématique en ce moment, vu que de toute façon, même s'il y a une reconnaissance des médias associatifs, actuellement les médias associatifs se trouvent dans une situation tellement compliquée qu'ils sont en train de disparaître. On va voir dans le concret quelle est cette situation compliquée. Une situation d'ailleurs qui a changé. Parce que pour très longtemps, l'Hongrie a représenté le seul État sortant du vieux bloc communiste qui avait mis en place une vraie bonne législation pour un système pluraliste des médias. Donc c'est une chose qui nous frappe encore plus. En Espagne, je l'ai évoqué, il y a des problèmes. En ce moment, en Espagne, si vous voulez, dans la région des Asturies, il y a les radios risquent des amendes jusqu'à 500 000 euros pour avoir placé les antennes sur les toits des bâtiments. En Suède, on l'a dit, commercialisation des fréquences, pas de législation dans la Belgique flamande ou en Finlande. En Saxonie, donc en Allemagne, l'État a promis d'aider les radios associatives à passer au numérique, mais elle les oblige à éteindre l'FM traditionnel, ce qui est quelque chose d'ambivalent, si vous voulez. En Grèce, deux radios associatives ont été fermées au mois d'avril. À Barcelone, une télévision associative a été fermée il y a deux semaines. Donc, vous voyez bien que on parle d'un côté, oui, de pluralisme, on a les reconnaissances, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, le rôle très important des régulateurs, que je remercie d'ailleurs. Mais apparemment, la situation n'est pas exactement, soi-disant, heureuse, quoi. Elle n'est pas très bonne. Alors, notre demande à l'intérieur de mon association, la marque, c'est comment remplir ce vide, ce gap qu'il y a entre les législations européennes d'un côté et les pratiques sur le terrain de l'autre. il ne faut pas d'ailleurs aller encore plus loin en disant qu'il y a de nombreux pays où les radios associatives ne sont pas reconnues comme telles. Donc elles doivent tout simplement demander des licences commerciales et puis ensuite agir comme des radios associatives. C'est le cas de la Roumanie. Nos collègues autrichiens, pour très longtemps, ont agi avec une philosophie associative, sans pourtant avoir accès à une vraie législation. Et ils ont dû aller à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et ils ont gagné. Et maintenant, l'Autriche est un des pays qui a une très bonne législation, qui reconnaît les radios, non seulement, mais qui a mis en place les instruments techniques et financiers pour les soutenir. Il y a des bons exemples. La France, avec le fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique qui représente, si vous voulez, le phare en Europe. L'exemple de l'Irlande qui a aidé et soutenu la conférence européenne de la marque à Dublin en 2011. Le cas de la Belgique francophone avec les fonds de soutien, l'Autriche. Mais je veux dire, en ce moment, la situation, vous le voyez bien, elle est encore très, très déséquilibrée. Il y a des pays comme la Pologne qui sont en train d'ouvrir et de s'intéresser à la question avec des consultations publiques sur comment une nouvelle loi audiovisuelle devrait intégrer ce secteur. Mais dans de nombreux pays, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Alors, moi, j'ai évoqué une fermeture d'une radio. Et en fait, il y en a deux au mois d'avril en Grèce. Je vais vous faire écouter un petit fichier audio qui dure 3 minutes. Et c'est la fermeture d'une radio en direct. On parle souvent des fermetures de radio. Je voudrais un instant que vous écoutiez. Qu'est-ce que c'est la fermeture d'une radio? Ça a eu lieu en Italie en 2001, pendant le sommet du G8. Alors déjà en 2001, les radios italiennes associatives s'étaient mises en réseau pour couvrir le G8 de Gênes, en donnant lieu à une expérience qui s'appelait Radio Gap, comme Global Audio Project, dans lequel il y avait donc 8 radios locales associatives qui, à travers l'Internet, émettaient clairement en direct sur les 8 villes qu'elles couvraient. Vous connaissez probablement l'effet de Gênes 2008. Les radios étaient accusées de faire de la contre-information avec les procès qu'il y a eu jusqu'à l'année dernière. On a démontré que ce n'était pas les radios associatives qui faisaient de la contre-information, mais éventuellement les médias soi-disant structurés et proches du système politique. Comme tout d'ailleurs en Italie, hein. Je suis italien. Donc, écoutez juste un instant. Probablement, vous n'allez pas comprendre tous les mots, mais je voudrais un instant vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la fermeture d'une radio.
Non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap, appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
Sta arrivando.
Qua dentro?
È dentro il cortile.
Abbiamo chiamato Agnoletto?
Abbiamo chiamato Agnoletto,
l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente. Già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata?
Simonetta,
chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari.
E qualcuno chiami direct, i parlamentari. La nuit du 21 juillet 2001 a Gênes. À 11h du soir.
Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà.
Sono la cour.
Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova.
Sono qui dal Media Center.
stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
entrati,
polizia fascista,
sono
che è entrata
poliziotti
nella
radio.
Sede di una radio, Manganello in mano, cazzo,
ci sono mossa.
In questo momento fanno
la repressione
di
in diretta
di
su Radio Gap.
Sentiamo.
4 celerini, 5. Sentiamo.
Voilà, ça ressemble à ça, la fermeture d'une radio par la police. C'est quelque chose qui me touche parce que j'étais clairement à cette époque-là à Gênes avec les copains des radios. Donc voilà, ça, c'est un peu ça la question. Alors comment remplir ce vide entre les résolutions européennes et les pratiques sur le terrain ? Moi j'ai une idée. Moi je pense que le passage au numérique pourra en fait être une opportunité dans cette direction. Une opportunité parce que les fréquences sur la bande FM sont désormais pleines. Je veux dire, à Rome, si on veut maintenant ouvrir une nouvelle radio en Italie, la seule possibilité, c'est d'acheter une fréquence. Donc il n'y a même pas des appels pour avoir accès à des licences. Donc moi, j'ai rencontré un marchand de fréquences qui me proposait une fréquence sur Rome à 1,5 million d'euros, une fréquence sur les Alpes à 40 000. Il me proposait même d'en louer une demi-heure par jour, une heure par jour. Ça, c'est la gestion du bien public. Et ça, c'est scandaleux. Et donc, voilà donc que le passage au numérique peut offrir, si vous voulez, une possibilité de dialogue, une possibilité pour que le secteur soit reconnu d'une façon homogène au niveau européen, même dans son immense diversité, qu'il ne faut jamais oublier. Les radios italiennes sont différentes des radios françaises, des radios irlandaises, etc., etc. Et même les radios italiennes, elles sont différentes entre elles-mêmes en Italie. Et c'est dans ce contexte, vous voyez, que l'introduction au numérique représente un peu la redéfinition des périmètres de la liberté d'expression d'un côté, de la gestion d'un bien public de l'autre côté, et de l'articulation entre deux choses encore plus compliqué, parce que c'est l'articulation entre la gestion d'un bien public et un droit fondamental comme le droit de communication. Donc vous comprenez bien que là, la question n'est pas vraiment très très simple à résoudre. Elle peut être simple dans certains pays, mais dans d'autres, ça représente quand même un défi. Et ça représente un défi, surtout si on veut considérer que le passage au numérique devrait offrir encore plus de pluralisme, donc encore plus de diversité, culturelle notamment, et encore plus, si vous voulez, de promotion des valeurs de cohésion sociale, des langues minoritaires, qui sont les valeurs à la base des radios et du mouvement des radios associatives en Europe. Voilà, moi je vais pas faire des grands discours. Je voulais tout simplement vous signaler une très intéressante étude faite par le Syndicat national des radios libres en France, une étude qui date de 2010, sur laquelle qui fait un peu l'état des lieux de la branche associative à l'intérieur du grand secteur de la radiophonie. Donc en 2010, les radios associatives avaient 2100 employés, ce qui fait le 40% de tous les salariés du secteur radiophonique. Et représenter un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros, qui n'est rien par rapport au chiffre d'affaires des grands réseaux au niveau national qui faisaient à cette époque-là 418 millions d'euros, mais qui représente quand même quelque chose d'intéressant et de viable, même du point de vue politique, pour réclamer certains droits. Alors quels sont ces droits? Et je vais en finir là. On n'est pas en train de demander la Lune. On demande accès aux fréquences, aux mêmes conditions que les autres acteurs. On ne voit pas pourquoi Radio Énergie peut avoir 5 kW et ma radio associative doit en avoir 25. C'est un choix. Si nous sommes économiquement viables et nous pouvons avoir un émetteur de 3 kW, pourquoi pas? Donc ce qu'on demande, c'est l'accès. C'est de mettre en place des mécanismes de soutien pour le secteur qui est sans but lucratif et donc qui sort un peu de ces lois de compétitivité qu'il y a clairement même au niveau de l'Union européenne. Et une reconnaissance tout court. Nous sommes convaincus que le rôle des régulateurs est fondamental. Nous voulons des instances de régulation indépendantes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, là aussi, dans tous les pays en Europe. C'est pour ça que nous voulons nous battre à côté des régulateurs. Parce que nous sommes convaincus que des régulateurs indépendants peuvent être l'arbitre dans un match qui se joue à coups de millions pour s'accaparer justement des fréquences sur lesquelles on veut faire passer tout, hein, à partir de nos téléphones portables, 3G, 4G, bientôt ça sera le 5G. Et dans ce contexte, quand on parle d'autorité indépendante, hein, il est clair que là aussi, il y a donc un grand enjeu sur lequel nous voulons mener notre bataille. J'en finis en disant que pour certaines associations et organisations, il y a des standards techniques. Quand on parle de numérisation de la radio, il y a des très bas, des débats très ouverts, des AB+, des RM+. La position de notre association, soyons clairs, est une position pragmatique. Nous pensons qu'il n'y a pas un standard par excellence qui va répondre à toutes les nécessités. Nous sommes convaincus qu'il faut utiliser un système et un maître. Et quel est ce maître? C'est la meilleure utilisation du spectre électromagnétique. Cette meilleure utilisation donc d'un bien public pourrait être le DAB+ dans des zones urbaines, pourrait être le DRM+ dans des zones un peu plus reculées, mais certainement ce n'est ni l'un ni l'autre et nous ne serons jamais partisans d'une technologie plutôt qu'une autre. Pour nous, c'est une question politique, c'est l'accès aux fréquences, c'est l'accès aux biens publics et c'est l'articulation entre un bien public et un droit fondamental comme le droit à la communication.